Monsieur-là, bonjour.
Merci d'abord de m'inviter pour parler de Georges Lafont. Je me suis intéressé à Lafont dans la mesure où nazérien d'origine. J'ai passé beaucoup de vacances sur la côte. Et cette architecture dite balnéaire m'a assez surpris. Et je me suis passionné à photographier tous les détails d'architecture. Et au fur et à mesure, j'ai décrypté qui étaient les architectes et donc, en l'occurrence, Lafont, qui était le fondateur de la station. Au fil de la recherche, de l'enquête, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait un modus operandi totalement différent entre le balnéaire et l'urbain. Et j'ai donc décidé d'un peu de chercher la façon avec laquelle les architectes avaient conçu les villas, et en particulier Lafont, bien sûr. Le style est une chose, la façon de concevoir la maison en est une autre. Le style vient se plaquer sur la fonction. Voilà, donc je vous propose de voir un premier diaporama concernant cette mode de fabrication des villas à La Baule. Qu'est-ce qu'une villa par rapport à une maison? Et un petit peu l'historique de La Baule à travers justement tous ces exemples. Il n'y a pas que Lafont, il y a beaucoup d'autres architectes bien évidemment. Et donc c'est surtout, je vais aborder surtout le côté philo et psycho dans l'architecture. On voit que le bâtiment va se développer d'une certaine manière en fonction de la réponse de l'architecte aux besoins de son client. Et par la suite, je vous ferai une petite présentation sur le clou avec quelques documents que je possède à droite à gauche. On verra donc un peu le personnage et les images que donc a projeté. J'avais envoyé des images à Gilles sur les différents hôpitaux et autres bâtiments qu'il a fait en urbain. Et on fera un peu la comparaison justement entre ce symétrique et dissymétrique, qui est quand même très particulier, très important. Voilà, donc je vous propose de faire une première recherche, enfin une première présentation sur le lien homme-nature, c'est l'architecture individuelle de villégiature. Donc qu'est-ce qu'on appelle villa, ces fameuses villas dites balnéaires. J'appelle toujours architecture dite balnéaire, je ne dis pas architecture balnéaire. Dans la mesure où en fait le balnéaire est un mode de vie et non pas un style architectural. Voilà. Alors, je vois tout, c'est bon. C'est vrai qu'il y a une partie de l'écran sur ton show. Voilà, donc les différents thèmes que je vais aborder, c'est l'hémicycle balnéaire, donc c'est le site en lui-même, tel qu'il est fait. Les styles architecturaux, donc là où il y a pléthore de styles, c'est assez amusant sur la côte, alors qu'on était en pleine période de régionalisme ou nationalisme avant la guerre de 14. Ensuite, il y a le décor en lui-même, c'est un décor très végétal et animal, et très très peu humain, alors qu'on va voir, je prends par exemple l'exemple de Bordeaux, nombre de statues de femmes nues ou d'hommes musclés sur les façades ou dans les fontaines, comme à Paris, tout pareil. Ici, rien du tout de tout ça, que de l'animal et du végétal. Ensuite, le concept balnéaire lui-même, de quoi s'agit-il? La conception balnéaire est assez particulière, et villa et vocabulaire architectural, c'est justement cette façon de concevoir une maison qui, par des apports d'un vocabulaire architectural particulier, permet de créer une villa. Ensuite, il y a la vision sociale de l'architecture, c'est cette façon de regarder l'architecture. La particularité d'une villa, c'est qu'on est à l'intérieur et on va vers l'extérieur, alors que dans la maison urbaine, on est dans la rue et on regarde le bâtiment. Et on fait partie un peu de la société qui a fait ce bâtiment, donc on a une certaine fierté, puisque c'est un bâtiment qui reflète le génie humain, par son endossement et sa symétrie. Ensuite, le balnéaire, donc est-il vraiment, enfin le style balnéaire, comme on appelle ça souvent, est-il vraiment architectural ou géographique? C'est plus une architecture de campagne, dite balnéaire, parce qu'à bord de la mer. Ensuite, c'est la consommation du territoire, c'est une façon de regarder comment la société a colonisé un territoire qui était vierge au départ. Voilà, donc l'hémicycle balnéaire baulois, je dis baulois parce qu'en fait c'est la Baule qui est la seule principale, sachant que la Baule est simplement un lieu-dit sur un territoire qui s'appelait la commune d'Escoublac. Et cette commune donc, a beaucoup souffert par l'ensevelissement des sables. 1779, le village est enseveli et déplacé sur son actuel emplacement. Et au fur et à mesure, donc la station balnéaire, pardon, de La Baule, cherchez mon mot, la station balnéaire va être créée en bord de mer. Alors, ce qui est important de connaître, c'est qu'en fait, c'est une des rares plages françaises à être exposée plein sud. Vous avez la Grande Motte dans le sud et vous avez La Baule. Les autres sont assez orientées est ou ouest, mais pratiquement pas plein sud. Et elle fait 9 km de long, ce qui est quand même assez important. Elle est abritée des vents d'ouest dans la partie ouest par la pointe de Pachateau. maintenant qu'elle a été plantée, alors qu'avant il n'y avait absolument rien. Et cette baie est cerclée d'une plage de sable fin et en pente douce. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas des galets comme en Normandie ou dans le sud de la France. On a quand même un site assez particulier qui permet de recevoir une population infantile. Et surtout, la forêt maritime fixe. Je lis derrière parce que je n'ai pas tout à l'écran. Bordée d'une forêt maritime fixant les montagnes ambulantes, le village public d'Escoublac est enseveli, enfin 1789-1780, il y a différentes dates, mais il est abandonné en 1781. C'est important, cette notion de forêt est primordiale dans la mesure où on va construire sous les arbres, sous le couvert végétal. Et c'est ça qui va donner le charme de la station elle-même. Donc une vue générale de la baie, pris de l'ouest, c'est-à-dire au-dessus du Pouliguen. Donc vous voyez, je vais prendre la petite souris. Donc la plage Benoît, c'est le quartier le plus huppé de la Bourgue dans la mesure où il n'y a pas de boulevard de mer qui passe devant, donc vous avez une relation directe entre le bâtiment et la plage. La partie La Baule, où est la souris ? Elle est là. La partie La Baule, donc, qui est ici sur la statue, sur la photo. La Baule-les-Bains, qui est donc la partie où la. Il n'est pas pratique ton truc là. T'as pas une petite souris qui se balade à côté ? Avez-vous une souris, cher monsieur ? Bref, vous voyez donc la partie La Baule-les-Bains, qui est en fait la partie de. Merci. De la forêt de la Baule-les-Bains. Marche-t-il ? Non. Si, il marche. Voilà, impeccable. Donc la Baule-les-Bains ici, tout au fond de la baie Saint-Nazaire et l'estuaire de la Loire, Pornichet ici, et la Loire qui démarre ici, l'estuaire de Marne. Ensuite, vous avez donc l'identification plage de la Baule, parce qu'on connaît de manière nationale et même internationale la Baule comme étant la plage de la Baule, mais ça s'appelle chez les marins la baie du Pouliguen, ainsi que le petit port qui va avec, et aussi le port de Pornichet qui est à l'autre bout de la station. Dans mon sens. Et alors, donc ça, c'est notre plan général dessiné par Georges Lafont en 1879-1880, on n'a pas la date exacte. L'idée, c'est un axe principal avec une petite gare qui se trouve ici. Et en fait, cette ligne de chemin de fer est. Pardon, je me trompe. Cette ligne de chemin de fer a été terminée par Jules-Joseph Encart, qui est le fils du baron de Mâcon, ministre de la Marine. Encart est tout à fait enchanté à cette idée de ligne de chemin de fer. Il possède une exploitation de charbon, comment dit-on ça ? On exploite le charbon. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Charbonnerie, non ? Charbonnage. Voilà, je cherchais le terme. Je me disais, c'est pas charbonnerie, c'est charbonnage. Il y a un truc. Bref, donc ce Encart était un industriel important, possédait le charbonnage du côté de Charleville-Mézières, et souhaitait pouvoir diffuser justement ce charbonnage dans les réseaux ferrés. Donc il termine la ligne de chemin de fer qui a été débutée en 1870, malheureusement juste au moment de la guerre, donc bloquée, et cette ligne de chemin de fer qui va jusqu'au Croisic sera terminée en 1879, donc 9 ans pour faire 33 km, c'est quand même assez laborieux. Vous apercevez donc dans le lotissement demandé par Encart à Georges Lafont, Encart achète les dunes au concessionnaire des dunes qui partait ce qu'on appelle le boulevard de la Liberté actuellement de Pornichet, c'est-à-dire la séparation entre Escoublac et Saint-Nazaire à l'époque, donc le boulevard de la Liberté jusqu'à la plage Benoît. À l'époque, plage Benoît n'appartenait pas à Benoît. Donc le fameux Berthaud est concessionnaire. Et Berthaud est un planteur nantais, enfin un investisseur dans les dunes, on va dire, il adorait planter. Berthaud va vendre une trentaine d'hectares Jules Encart, pardon. Et Jules Encart, par l'intermédiaire de Berthaud, je pense, a dû contacter Lafont, parce que Lafont a une trentaine d'années à l'époque, et il est en pleine période d'euphorie. Le clou n'est pas encore créé, mais il connaît énormément de monde, semble-t-il, sur Nantes, grâce à son père aussi. Son père, de son côté, Jules, avait acheté, en concession tout pareil, en 1854, la plage du Nau. La plage du Nau, c'est la partie dunaire du Pouliguen, entre l'Étier et la pointe de Pachateau. Et son père avait acheté ça avec un certain Clémenceau, un avocat nantais. Et tous les deux avaient commencé à construire donc, des bâtiments, et le petit Georges a joué sur mon Pouliguen et a commencé à construire des bâtiments là. Bon, pour revenir à la Baule elle-même, donc c'est un petit lotissement. J'avais rencontré le petit-fils Encart, c'est-à-dire M. le comte d'Aboville, qui m'avait expliqué que son grand-père voulait absolument que ce soit simplement pour la famille, pas du tout pour les copains parisiens, etc. C'était strictement pour la famille. Vous voyez un peu maintenant la façon dans laquelle ça a tourné. Sachant qu'en 1902, lorsque dans les différents... La Baule est un puzzle de lotissement. Vous avez le lotissement Incar, vous avez le lotissement d'Arlu qui est à côté, l'agent de change, et vous avez ensuite ce qu'on appelle l'hôtel Royal, qui est au fait au départ l'Institut Verneuil, qui est un sanatorium, mais pour enfants riches. Vous avez le sanatorium du Pimbron, qui était pour les enfants pauvres, entre guillemets inventé par Hippolyte Palu, inspecteur des enfants de l'assistance publique de Nantes. Et Pimbron est créé en 1886, Georges Lafont intervient en 1904, il termine le bâtiment. Pour autant, l'Institut Verneuil est créé en 1896 et c'était pour établir l'égalité entre les enfants pauvres et les enfants riches. Il n'y avait rien pour les riches, donc il fallait créer quelque chose. C'est l'enfant, l'Institut Verneuil. Donc ce fameux quartier de l'Institut Verneuil est important, ainsi que celui de la plage Benoît. Tous ces lotissements s'imbriquent les uns dans les autres et créent la station de la Baule, d'une manière linéaire, jusqu'à aller chercher Port-Michel-des-Pins, qui est à l'autre bout, avec le lotissement de la Baule-des-Pins en 1924. Donc ce premier plan de Lafont est important car on y voit ici les trois petites maisons de douaniers, parce que la gabelle est très importante à l'époque, donc les gabelous qui surveillaient le Seine, on est en plein territoire de Marais-Salant, et il servait aussi de police pour le lotissement lui-même. Vous avez la Japan Satan ici, la petite place du marché, qui ensuite sera déplacée là-bas, mais qui la place sera la place Marchand Leclerc après, et les toutes premières villes là construites à ce niveau-là. C'est d'ailleurs là qu'ont été construits récemment la fameuse casquette, un immeuble assez haut, avec une espèce de grand auvent, qui fait plus penser à un tremplin à ski qu'autre chose. Et la villa de Georges Lafont se trouve à cette pointe-là, juste en face, la ligne de chemin de fer, dont vous voyez le petit train ici. Voilà. Alors voilà un peu l'ambiance de l'architecture actuellement. L'avenue de Gaulle qui est ici. Alors ce que j'ai marqué, c'est la différenciation des différentes fonctions architecturales. Vous avez les premiers bâtiments, ce que j'appelle... Hop là, oui, pardon. C'est moi qui vous... Ah, on ne voit pas tout. Bon. Donc, je marque en haut, l'architecture balnéaire se loge sur le couvert végétal. Vous avez une première flèche verte en haut qui vous montre des bâtiments enfouis sous le végétal. Ensuite, vous avez ce que j'appelle l'architecture financière, parce qu'on est dans ce qu'on appelle les maisons de rapport, autrefois, qui maintenant sont des copropriétés verticales. Le bâtiment toise la canopée de la végétation. Et cette rupture d'échelle très importante, c'est ce qui va créer un petit peu les problèmes d'association du patrimoine dans les années qui viennent, en 1990 et autres. Il y a beaucoup d'associations de patrimoine à la Baule. Et la partie commerçante, donc l'avenue de Gaulle, ignore totalement la végétation. Donc récemment, on a planté quelques petits arbres dans l'avenue pour faire plus décor. Pardon, je trouve mon essence. Voilà. Alors les styles d'architecture, on voit tout. Oui. Les styles d'architecture, ce qui m'a surpris dans cette, une fois que j'ai fait l'inventaire des villas sur la Baule, le Pouliguen et Port-Michel, c'est qu'en fait il y a une collection assez fantastique de styles architecturaux. Ça va dans tous les sens. Et il est clair que c'était en fait un imaginaire d'évasion parce que chacun pouvait choisir le style qu'il voulait à plaquer sur sa façade. Le décor est là pour déstresser les gens. Et cet imaginaire d'évasion est important parce que dans le jeu de l'ambiance, ce que j'appelle l'ambiance urbaine minérale. Quand vous créez une ville, vous écartez la végétation et vous plantez du minéral pour que ça ne pousse plus. On maîtrise la chose. À la Baule, c'est tout l'inverse. On est dans la végétation et on reste dans la végétation. Et ce qui est surprenant, c'est que la fonction de la station balnéaire est une fonction de farniente. On n'y fait rien du tout. On bulle, on se détend. Et la fonction d'une ville, bien sûr, c'est le travail. Donc il y a un stress qui va avec. Donc on reviendra tout à l'heure sur les stress, on va dire. Voilà, donc ce qui est important à comprendre dans cette idée de style dit balnéaire, en fait il n'y a pas de style balnéaire pour en parler, il y a plein de styles architecturaux, et ces styles datent l'époque de la construction, parce que au fur et à mesure d'ailleurs on parle ça dans différentes époques architecturales, on dit c'est du 18e, c'est du 10e, etc. Donc le style date un bâtiment, et d'autre part il évoque un secteur géographique. Alors ce qui est surprenant à la Baule, c'est qu'il y a tous les secteurs français qui se retrouvent inscrits. Donc, à proprement parler, il n'y a pas de style balnéaire, mais plusieurs styles qui parsèment le littoral. Pardon, je vais trop vite. Alors, deux tendances fortes, bien évidemment, mais ça c'est au niveau national. Vous avez la période nationaliste autrefois, avant 14, qui, grosso modo, c'est le néo-gothique qui va être le plus heureux, sur la côte, en parlant de pittoresque tout à l'heure. Il y a très très peu, il y a quelques relents, mais il y a très peu d'architecture dite néoclassique sur la côte. On est par contre beurré, je dirais, de décors néo-gothiques. Et ensuite, la période après la guerre de 14, c'est le régionalisme, qui est toujours un petit peu en vigueur, parce que parfois, il y a à peu près une dizaine d'années, la Baule tenait à avoir un style baulois. Donc on avait quand même une identité, même municipaliste, on va dire, parce qu'il y a une municipalité qui avait décidé ça. Donc le régionalisme est très fort et très important, on verra différents exemples. Et surtout, le jeu de la symétrie dont on parlait tout à l'heure, symétrie, donc les premiers chalets, et d'ailleurs notez bien qu'on parle de chalet et non pas de villa, les premiers chalets étaient symétriques, avec beaucoup de bois présenté en façade, et jusqu'en 1880-90, ça dure à peu près. Voilà. Ensuite, on va basculer dans le dissymétrique, donc ça démarre en 1870-1880 avec les villas de Lafond, et ça va être quasiment systématique sur la Baule. Alors, donc le néo-socialisme, ce que j'ai pu remarquer comme différents styles, il y a le néoclassique, le castelin, un peu, c'est le jeu de la parade sociale, on va dire, le château fort néo-gothique, une défense romantique, on est toujours dans le néo, hein, quelque chose, bien évidemment, la fonction de château fort lui-même n'est pas là, par contre, il y a l'esprit. Château de la Loire, toujours dans la parade, une certaine prestance. Tous ces bâtiments sont dissymétriques, hein, faites attention. La maison médiévale, donc le fameux pan de bois qui va par la suite donner le régionalisme, sachant que tout le côté moyenâgeux nantais était quand même en pan de bois. Et on va retrouver des éléments, par exemple les frères Bourgoin père et les frères vont aussi faire des maisons à pan de bois un petit peu sur Pain-Château. Et on retrouvera des éléments d'architecture transportés de Nantes sur la côte. La villa italo-méditerranéenne, des tuiles et les frises sous le toit. Les hammams ottomans, ça c'est assez amusant parce qu'en fait c'était cette notion lorsque la France va aller faire la colonie en Algérie en 1830, j'avais lu un texte d'un ambassadeur qui était tout à fait surpris de voir la qualité de soins que les Arabes se portaient eux-mêmes. Ils avaient donc des hammams assez importants et il va y avoir toute cette idée de bain turco-romain parce que les fameux Romains sont partis Constantinople et surtout nous ont ramené les hammams. Et on va avoir une architecture qui tend vers cette espèce d'esprit mauresque ou ottoman, ne pas confondre, paraît-il, entre mauresque et ottoman, mais il y a pour nous, Européens, le mélange est facilement fait. Et on va trouver donc des éléments architecturaux qui rappellent justement cette notion de santé et d'hygiène. Et autrement, le temple à la grecque, il y a quelques exemples, il y a très très peu, mais il y en a quand même. Voilà, donc je commence par un bâtiment important à l'autre bout de la plage, du côté ouest, c'est-à-dire c'est autour de Pouliguen. J'avais Dégrigny. Dégrigny est un homme, en partie un homme politique, pardon, mais surtout ami de Lamartine. Donc il avait une certaine importance. Et il était venu se construire ce petit château car son fils était tuberculeux. Donc à l'époque, les soins étaient donnés. On emmenait les gens au bord de mer et le chlorure de sodium empêchait la tuberculose de développer. En fait, c'était le changement d'air, changement d'atmosphère et de mode de vie qui faisait que l'enfant retrouvait un peu de force. Le bacille de Cor étant découvert en 1884 ou 87, je ne sais plus. Donc c'est Liberge, un architecte nantais, qui fait ce bâtiment. Notez donc ce bâtiment symétrique avec un avant-corps important et surtout cette véranda à l'entrée. Vous voyez, toute la façade est barrée par une véranda. Donc il y avait une grande terrasse et on regardait la mer, la contemplation de la mer. Voilà. Ensuite, à l'autre bout de la baie, côté Pornichet, ce petit château des Tourelles. Le truc le plus amusant, c'est que ce château a été surélevé en 1880, donc il était à R plus 1, il est passé à R plus 2 plus Combe. Les combles ont été rajoutés, parce que d'abord il y avait des créneaux, puis ensuite il est revenu en tourelle. Assez amusant. C'est un comte qui habitait Chevalières qui a fait ce bâtiment. Donc les deux châteaux, enfin, le château de la Loire et puis la villa italo-méditerranéenne, c'est de François Bourgoin, l'architecte. Et ce qui est amusant de noter, c'est que c'est le même plan, mais la façade est habillée différemment. Donc on a un côté rationaliste, efficace, je dirais, de l'architecture. Vous avez donc les deux, la loggia ici, qui a été vitrée, donc c'est le séjour. Un corps principal avec un effet belvédère ici, avec cette lucarne. Et là, vous avez donc une baie gemellée, qui donne effectivement vue sur la mer de manière assez haute. Plus on est haut, plus on a de vision, bien évidemment. Et donc un étage ici, surmonté ici par une petite partie, donc des frises italiennes plaquées sur la façade. Et là, un petit corps de bâtiment qui est en arrière-corps. Voilà. Donc le même plan, deux façades différentes. Alors, la fameuse façade de notre ami Georges Lafont, le médiéval. Donc, des moellons de granit grossièrement appareillés, mais quand même suffisamment dressés. La tourelle hors œuvre, spécifique de l'architecture moyenâgeuse. Le our en bois avec les fenestrons qui permettent aux habitants de se défendre contre les assaillants. On est un peu dans le rêve romantique, c'est loufoque. Voilà. Et donc cette fameuse charpente débordante, c'est la ferme qui déborde pour soulager un petit peu la charpente générale. L'architecte de Pambois donc, est toujours en encorbellement. Et c'est ça qui importe à connaître. Alors ici, une petite...
Pardon ?
Là-haut, oui, c'est-à-dire les petits carreaux, mais après, ce sont des châssis qui ont été reposés. Avant, il y avait des baies. Oui, il y avait des ouvrantes. Là, c'est des châssis qui ont été posés. Et je m'aperçois qu'il y a la petite dame qui apparaît juste dans la fenêtre. Là. Je ne l'ai pas vue. Je me pensais que maintenant, c'est une vieille photo, ça.
C'est un cadre PVC.
Pardon ?
C'est un cadre PVC qui a
pas. Je pense pas que c'est du bois, là, à peu près. Parce que c'est une photo assez... Je faisais toutes mes photos en diapositive, j'étais un fou de diapo, et je suis passé récemment au numérique, donc il y a quelques diapos que j'ai transcrits en numérique, c'était pas très heureux, mais voilà. Alors donc, le fameux ottoman dont je vous parlais tout à l'heure, Van den Broek est un architecte qui vient de, après la guerre de 70, qui s'installe sur la côte, à Saint-Nazaire, il va beaucoup œuvrer à Saint-Nazaire, et il fait pour une famille Hortmans cette villa, et pour une autre partie de la famille, une autre villa derrière. Et il avait été convenu entre les familles que le Kerfia serait rehaussé une fois que la végétation aurait poussé devant l'autre villa pour ne pas gêner trop la vision. Enfin, bref, une ambiance assez sympathique entre les cousins. Retenez quand même ce bulbe et ce croissant qui termine l'épiphétage. C'est amusant localement, pardon, je me trompe de sens. La villa grecque, donc une petite particularité assez drôle, Clément Josseau, qui est l'architecte du musée des Beaux-Arts de Nantes, terminé par le Noir. Clément Chausseau fait cette ville-là, totalement ordonnancée, bien symétrique, avec les baies les unes sur les autres, etc. Et à l'intérieur, les commanditaires avaient choisi un décor arabe. Donc on a un mélange de styles assez heureux. L'imaginaire d'évasion est bien là. L'intérieur était totalement arabisant. Bon, il était récemment, la maison était entièrement restaurée récemment et tout l'intérieur a viré. Sachant aussi qu'une des fenêtres ne pouvait pas s'ouvrir car l'escalier passait devant. C'est très souvent dans les villas, on avait un ordonnancement et puis ça bloquait. Bon, c'est un exemple de villa symétrique assez amusante et d'obédience néoclassique. Voilà, alors maintenant je vais passer au régionalisme rapidement. Donc les différents styles que l'on trouve sur la côte, breton, provençal, méditerranéen, basque, landais, anglo-normand, flamand, alpin. Vous voyez, on a toute la côte plus les Alpes, les chalets. Alors ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que vous avez l'étymologie des mots est assez particulière. Le Caire, c'est le hameau qui vient chez quelqu'un. Par extension. Le mas, c'est la maison provençale. Mas qui vient de manere, en latin, demeurer. La villa, villeggiatore, aller faire un tour à la campagne. Donc cette notion de campagne est primordiale dans toute cette architecture. Ecce, c'est la maison basque dans la montagne, en ville, mais très souvent dans la montagne. Le landais, je n'ai pas trouvé de terme. Anglo-normand, c'est le cottage. Alors c'est la coterie, les paysans. La révolte des paysans, c'est la coterie. Le mot cote est un mot, je crois, d'origine allemande qui est passé en français et qui est ensuite parti en Angleterre pour donner cottage. Flamand, je n'ai pas trouvé de mot. Et l'alpin, bien sûr, c'est chalet. Le chalet, c'est la racine, c'est cala, c'est du suisse-roman qui signifie maison dans la campagne. Ensuite, dans cette période régionaliste, vous aviez donc les conquêtes françaises, c'était les colonies. Et le moyen d'aller aux colonies, ce n'était pas l'avion, c'était le paquebot. Donc on va avoir une architecture de paquebot. On est en pleine période 1930, c'est le lancement du Normandie. Lancement du Normandie, un architecte va développer un décorum de paquebot. Et enfin, un style architectural international qui, en fait, ne va pas faire floresse parce qu'il y a un manque de décor végétal qui va être important. Donc, un premier exemple, à tort qu'on considère le journalisme entre les deux guerres, en fait, il démarre un peu plus tôt. Il démarre en 1990 à peu près dans les modes vestimentaires et autres. On a alors que les villégiateurs arrivent sur la côte, ils viennent bien savoir qui est qui, et les affiches de chemin de fer vont vanter tant et plus les costumes des paludiers, qui sont des costumes assez riches. Et ce régionalisme donc démarre en 1990 au niveau vestimentaire, au niveau artistique, mais au niveau architectural, le 1910 à peu près, on a des références assez amusantes, dont ce chalet anglo-normand dessiné par Antonin Vial. Alors Vial est un élève de Lafont. Un des grouillots de Lafont. Il y en avait plusieurs, Vial, Vier, Domé, Ménard et Lebeau, Rouillard. Et Vial est un chèque de Menton. Il nous fait l'angle normand, c'est quand même assez amusant. Ici, la Ecce Basque, c'est un architecte parisien qui s'appelle Jean Girette, c'est ça, oui, 1911. C'était la villa du docteur Dubois qui a été maire de La Baule très longtemps. Et cette ville-là est un. Donc j'ai pris juste avant qu'elle ne parte, maintenant c'est le Beverly qui est à la place. Une villa assez amusante, on voit un bâtiment symétrique. Le bâtiment est symétrique ici, et ensuite vous avez un appenti sur le côté, et puis ensuite une petite entrée. Vous avez l'entrée principale de la maison qui se trouve à cet endroit-là. Là, vous avez la terrasse avec les deux baies, une loggia qui est au-dessus, donc les deux baies cintrées, et là, une entrée de service sur le côté. Et il y avait un petit plus en plus. Voilà. Donc, on part d'un bâtiment symétrique, et ensuite, on le dévie dans tous les sens. Alors, quelque chose qui est assez drôle quand même, c'est cet anglo-normand, la gare de La Baule. Fernand Collin est l'architecte de la Société Générale Foncière qui va, après la Jarige, enfin, racheter à la Jarige le lotissement de la Baule-des-Pins et qui va ensuite construire les villas dans la Baule-des-Pins. Ce qui est amusant, c'est que ce bâtiment en pleine Bretagne est anglo-normand pour la ligne de chemin de fer. Donc il représente l'institution du Paris-Orléans. Et c'est un bâtiment totalement symétrique, comme vous pouvez le voir, qui à l'origine était bleu, qui maintenant est passé rouge. Donc les couleurs varient beaucoup suivant les époques. Mais l'intéressant, donc, c'est le jeu d'appareillage des pierres. Donc on n'a pas, comme en ville tout à l'heure, qu'on voyait les bâtiments de Lafond en 1867, 68, je ne sais plus, des bâtiments de Kléber et compagnie, où là l'appareillage est tout à fait lisse et propre, donc il est poli. Et là on est en rugueux, en rustre. Vous voyez donc les pierres appareillées en relief, mais quand même avec un certain agencement intelligent. Ça va. Voilà. Donc là, 1927, c'est le fameux concours de la Baule des Pins, de la gare de La Baule, pardon. Les deux gares sont de la même époque, mais l'une est bretonne, l'autre est anglo-normand. La raison de l'anglo-normand, c'est que lorsque les Parisiens venaient à La Baule, l'idée pour eux, c'était le bain pour eux, c'était Deauville. Voilà. Donc l'imaginaire de l'époque, c'était de faire l'anglo-normand. Alors que, puisqu'on est en Bretagne, la commune voulait une gare aussi, les deux gares sont distantes de 2 km, 3 km. La gare de La Baule, de Descoublac-La Baule, on disait à l'époque, est anglo-normande, bretonne. Sachant que l'architecte Adrien Grave, associé avec Roger Ponce, dont le père était dans les chemins de fer de la compagnie du Midi, les pierres ont été dessinées sur les plans avec différents coloris et le constructeur a respecté l'empressement et le côté aléatoire, pittoresque du granit. Non, suivant comme ça. Je dis, marche pas. Bon, hop. Tac. Ah, t'es gaucher, d'accord. Clic gauche, il n'y a pas clic droit. Alors, la TECOR. Président de société important, vous connaissez donc l'avionneur en lui-même. Il y avait une maison à cet endroit-là. Et c'est Paul-Henri d'Athessey était un architecte très important. Il y a deux architectes importants à La Baule, c'est Lafond et d'Athessey. Bon, Lafond, malheureusement, on n'a pas trouvé de fond d'architecte. Et d'Athessey, coup de bol, je l'ai trouvé dans le fond d'une cave à Saint-Herblain. Le fils du chef d'agence de d'Athessey avait été récupéré. D'Athessey est mort avant la guerre, en 1938, et le chef d'agence avait tout récupéré les plans, ils avaient manqué. Donc on a pu récupérer les fonds, alléluia. Ils sont à l'archive départementale. Cette ville-là est très importante de par son aspect. On est dans une maison dissymétrique alors qu'on a une entrée totalement symétrique, plein axe. Voilà. Bon, ça c'est le Caire breton. Alors le Caire, c'est chez quelqu'un. Flamand, c'est la villa La Croix-Saint-Clair. Elle semble symétrique en façade sur la rue comme ça, mais en fait, il y a toute une partie qui est dissymétrique à l'arrière. Et pourquoi du flamand à La Baule ? C'est assez amusant. Donc, on est encore dans le bord de mer, puisque les plages flamandes sont aussi connues. Ici, quelque chose d'assez amusant, c'est le mât provençal. Vous voyez donc une structure assez simple. Georges Meunier est l'architecte de cette opération. Il a été diplômé juste après la guerre. Il s'installe avec Adrien Grave, un autre architecte avec qui ils avaient fait leurs études ensemble. L'association va durer 2 ans, 3 ans, puis ensuite ils se séparent chacun de leur coin. Et ce qui est amusant, c'est que cet architecte va nous faire donc une structure basique sur laquelle il va mettre un toit en tuile, donc la tuile, l'évasion du soleil, l'esprit du soleil. Et encore plus ensoleillé, c'est les colonies où vous avez une toiture terrasse. Et donc la fameuse toiture en rampant se transforme avec une terrasse accessible. Voilà. Même structure d'architecture. Et donc cette ville-là va être reportée plusieurs fois dans la Baule-des-Pins. La colonie, c'est Adrien Grave, donc l'associé de Meunier, va s'amuser à regarder de près le paquebot France, le paquebot Normandie, pardon. Le Normandie est en construction au chantier de Saint-Nazaire, et les architectes décoraient l'intérieur. Mais lui, comme il n'a pas le droit de les décorer, donc il va faire des villas en fonction des bateaux, alors que les bateaux étaient faits en fonction des villas, enfin des maisons, et les bateaux transportaient le mode de vie français à l'étranger. Lui, il va s'amuser donc à planter des paquebots en bord de mer. La ville, elle est peupliée, donc c'est pas un nom marin, mais ce qui est amusant, c'est cette pergola qui est ici, toute la tubulure des garde-corps qui était métallique, donc en bord de mer, c'est pas terrible, mais ça a tenu quand même pas mal. Et l'enduit est un espèce d'enduit, vous prenez un coulis de ciment et vous le frappez sur la façade, et ça vous fait comme une écume qui dégouline avec des petites perles. Ça, c'est amusant, c'est vraiment un mode de faire particulier. Donc cet architecte va être dans l'ambiance Art déco. Faire ce genre va lancer ce style de architectural paquebot. Et donc la référence internationale que l'on a, c'est l'unique. René Perret est un architecte qui vient des régions libérées, comme la plupart des architectes à l'époque, puisque une fois qu'on avait reconstruit la France détruite par la guerre de 14, les architectes sont repartis en France et plusieurs sont arrivés à la Baule, dont le lotissement venait de démarrer, la Baule des Pins, le concours est lancé en 1922. Il y a 100 architectes qui s'inscrivent, il y en a 70 qui répondent. Les résultats de Paris et de la Baule ne sont pas les mêmes. Il y a une espèce de mille et mélo. Le concours n'est pas très catholique, mais il est gagné par l'abbé et l'évêque. Je n'invente rien. C'est des cas-là qui n'apparaissent pas dans le concours et qui deviennent tout d'un coup les gagnants du concours. Et donc ça a attiré beaucoup de monde, dont René Perret, qui s'installe, non pas le concours, mais qui s'installe lui à la Baule en 24. Et il fait cette architecture internationale, donc vous voyez aucune référence géographique particulière à la France. Mais l'important, c'est que en fait, c'est ce qui donne un peu le cachet de cette maison, c'est que l'intérieur a été décoré par Joe Bourgeois, qui était le chef d'agence de Bill Stevens. Et toutes ces maisons que je vous ai montrées apparaissent dans un ouvrage qui s'appelle les villas de la Baule. Oui, les villas de la Baule, qui en fait ne reprend que les villas de la Baule les Pins, qui est un lotissement qui est en création, et Charles Massin et la Société Générale Foncière, enfin édité chez Charles Massin, la Société Générale Foncière faisait sa publicité à travers cet ouvrage. Donc j'ai eu la chance de le retrouver. Et là, c'est l'aquarelle qu'avait fait René Perret, qui a été diffusée dans l'illustration et que la fille de l'auteur m'a offert. Très content. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, en fait, dans cette histoire, c'est que le décor est important. Les avenues, les allées, on n'a pas de rue à la Baule, ce ne sont que des avenues et des allées, donc on a déjà une notion de campagne. L'embrequin, beaucoup de bois découpé, et souvent de forme en rinceau, on va voir ça tout à l'heure. Les faïences architecturales, les frises moulurées, épis de fêtage, c'est que des animaux, beaucoup de florales et des animaux, pardon. La fêtière fleuronnée, le papier peint, et surtout la jardinière. Alors, la jardinière est l'élément clé de cette architecture entre les deux guerres, où le végétal est primordial. D'abord une rue, une avenue, l'avenue de ces maisons étant le comte qui a engagé la plantation des dunes d'Escoublac. Ensuite à Pornichet, donc une villa qui s'appelle Chalet des Roses, une villa symétrique, on est en 1070-80, c'est assez tôt. L'avenue s'appelait l'avenue Bourgerelle, qui est un architecte important en Nantais, et qui avait investi un petit peu et à Saint-Nazaire et à Pornichet les Pins, qu'on appelait ça à l'époque. Et donc dans l'avenue Bourgerelle, qui est devenue l'avenue de Chapelle par la suite, il y a ce chalet des Roses. Notez aussi le chalet avec un ascenseur circonflexe, encore plus compagnon. Voilà, charmant cottage, encore des fleurs, 1906, la date est marquée, on est dans l'art nouveau. Les fêtières fleuronnées tout là-haut, notez aussi le jeu de l'ardoise, c'est un petit café à Saint-Marc, sur la place. Et autrement, une villa en 1922, un petit peu art déco, c'est un architecte arménien, Tiridate, qui va dessiner ce genre de choses, et dans chacune des pièces, un motif différent. Ça, c'est super. Les faïences de Jules Lemnitz, donc Jules Lemnitz est le fondateur, le créateur des faïences architecturales non gélives, qui vont pouvoir se mettre à l'extérieur. On trouve donc différents motifs de cette architecture. Donc toujours du motif végétal. Et là, dans l'art déco, on était donc dans l'art déco à Pornichet, Georges Vachon se fait une frise d'art déco de cette manière, avec une toute petite pergola qui ne fait qu'une barre. Mais bon, il y a déjà un bout de pergola sur un bâtiment qui est urbain. C'est dans une rue, il y a une rue à Pornichet, et c'est un bâtiment commercial. Voilà, alors le décor animal maintenant, des chats, des mouettes, des pélicans, des cigognes, crabes, coquillages, dauphins, étoiles de mer, il n'y a toujours pas d'humain dans cette histoire. Donc la petite villa que Saint-Corentin, Anglo-Normande, c'est un chat qui vient de la faïencerie de Bavant. Les terres cuites de Bavant, c'est une maison qui existe encore, qui a été reprise par une Anglaise. Voilà, la faïence des les fameuses cigognes, ça c'est les mouettes. Il y avait des cigognes en partie en épi de fêtage, sachant que les cigognes représentaient l'Alsace, qui avait été perdue mais qui avait été récupérée en 1922. Une grosse coquille Saint-Jacques que j'ai trouvée, en fait, qui venait des Halles d'Auxerre, qui était créée par Guy Bigot. Et Georges Domé utilise cette faïence, c'est le seul exemple qu'on ait sur la côte, de ce goémon et de cette énorme coquille Saint-Jacques. Là, je ne sais pas de chez qui ça provient, mais c'est une villa qui est assez importante, dessinée par Domé, tout comme nous tout à l'heure. Domé va donc utiliser ces gros crabes sur la façade. Donc vous voyez, le décor est vraiment dans une importance à la fois végétale, à la fois animale. Ce qui donc m'a surpris dans cette recherche, c'est qu'au XIXe siècle, le décor urbain était très anthropomorphe, muscles bandés, cingalbés, c'est comme ça que je les appelle, voir donc toutes les statues. J'ai fait de nombreuses photos là, en ville, ce genre de choses. Alors qu'en bord de mer, ce qui va me surprendre, c'est cette nature omniprésente, tant par la végétation des arbres sous laquelle on construit, que par le nom des lotissements. Donc le lotissement Incar s'appelle le lotissement des arbres, celui de Darlus s'appelle le lotissement des oiseaux. Ensuite, la Baule des Pins sera les provinces, les châteaux de la Loire, vous avez les villes de la Loire, les îles de Bretonne, etc. Enfin, il y a plein de toute une ambiance, mais les écrivains français, ça c'est autre chose. Le lotissement de la Baule des Pins, je l'appelle le lotissement Cocorico, parce qu'on retrouve toutes les valeurs françaises. On a les auteurs, les peintres, les musiciens, pardon, les musiciens français, etc. Il y a quand même un côté très cocorico, assez amusant. Donc, le lotissement, il n'y a pas de rue, on n'est pas dans l'urbain, on est dans une ambiance végétale. L'architecture, donc, il y a tous les styles des côtes françaises. Les appellations chalet, villa, care, cottage, etc., c'est rapport à la campagne. On n'a pas d'hôtel particulier, on n'a pas de maison, pas de palace, sauf les grands immeubles, les grands hôtels par la suite. Et le décor, donc, arrive. Le jardin est obligatoire, donc déclinaison de décoration, d'ambiance. J'ai estimé que les villas étaient de style architecte rural, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'imiter la campagne, on est toujours dans le néo. Voilà, alors maintenant j'aborde le côté assez particulier du concept balnéaire, qui est en fait la façon dont la villa va se constituer. Dans une villa, on habite à l'extérieur, dans le jardin. Dans une maison, on habite à l'intérieur, on se protège. La différence est importante, c'est qu'en fait, nous sommes tous constitués d'un corps et d'un esprit, et que ce corps et esprit forment une bulle psychique. Et cette bulle psychique a une certaine distance de sécurité, qui au fur et à mesure de vos problèmes de la vie quotidienne, cette bulle va se rétrécir, la distance de sécurité va se rétrécir. Imaginez que je me pointe près de l'un de vous, et pendant 10 minutes, ou même une heure, je me pointe à 10 cm de sa joue. Au bout d'une heure, je prends une baffe. Voilà. Donc la distance de sécurité ayant été franchie, il est important qu'on puisse l'agrandir de temps à autre. Alors, ce qui est surprenant, donc, c'est l'échappée visuelle va permettre de décompresser l'être humain, de lui agrandir sa bulle. Et donc, le fameux panorama, la vision totale sur l'océan, l'océan donc avec son horizon, qui est la limite en grec, la distance du regard va être très importante. Et plus vous allez voir loin, plus votre bulle psychique, la distance de sécurité, va se calquer sur ce regard et donc va s'agrandir. Et le jeu de l'architecture dite balnéaire, c'est tout cette, et aussi bien la montagne, au tropique, n'importe où, cette architecture de campagne est une architecture qui emmène les gens à dégonfler leur bulle, à l'agrandir. Voilà. C'est un anti-stress urbain très puissant, puisque tout le monde sait que le balnéaire, c'est quand même très prisé. Il y a le jeu du bar, bien sûr. Le fameux génital. Alors, ensuite, je m'en tourne parce que j'ai pas tout le texte à la fois. Donc le jeu balnéaire se déroule en deux temps. Vous êtes à la ville, vous avez un travail à faire, il est important, et vous gagnez de l'argent pour payer vos steaks et vos loyers. Une fois que vous êtes bien fatigué d'avoir gagné ce steak et ce loyer, et bien l'argent que vous avez mis de côté, vous allez le dépenser pour récupérer l'énergie. Et l'énergie se trouve à la campagne et non pas à la ville, donc dans le végétal. Hop là, je vais trop vite. Donc le bain, alors ce qui est assez surprenant, c'est que autant on a des critères de reconnaissance avec un jeu vestimentaire. On est loin de l'Yvette, vous me direz, mais on va venir sur la fond. Les hommes, la population va aller sur la plage et va se retrouver quasiment nue. Ce qui est très amusant. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, on est en contact avec les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, la mer, le sable, le vent, le soleil, et en 8 jours, vous êtes debout. Alors, l'architecture visuelle de Villégiature est donc définie par ce fameux jardin qui est planté à chaque angle de la parcelle et non pas à chaque angle des murs de la maison. C'est important parce qu'en fait, la salle de séjour, c'est le jardin, elle est à ciel ouvert. Et on passe le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner à l'extérieur. C'est ça qui est important dans cette architecture et que m'a fait un peu prendre conscience le fameux Georges Lafont. C'est que le jardin était primordial et qu'il y avait vraiment une ouverture très importante. Donc ce dont je me suis aperçu, c'est que vous avez la position physique, qui est le giron maternel de la construction. Donc vous avez une tranquillité, une sûreté. Puis vous allez dans l'espace transitionnel, dont je vais vous parler juste après le vocabulaire. C'est l'ouverture sur l'extérieur qui est très importante. On parlait tout à l'heure des linteaux en métal qui agrandissaient un peu la baie. Dans l'architecture néoclassique, vous avez une ouverture verticale de la baie. Dans l'architecture de villégiature, vous allez avoir une horizontalité qui va se créer dans la baie. Et plus la baie va s'agrandir, plus vous aurez un horizon vaste. Donc cette observation psychologique permet une détente. Et ensuite, vous entrez en osmose avec l'extérieur, avec la nature en elle-même. La nature, c'est la partie que l'homme n'a pas touchée sur Terre. Alors que s'il y touche, ça devient un paysage. Voilà, donc le charme d'une villa, le charme d'une villa, c'est la fameuse transition, la floraison qui va avec, et la vue sur le panorama. Donc les fameux espaces transitionnels dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'architecte va créer, un petit peu à la manière de Winnicott, son objet transitionnel. Winnicott, donc, est un psychanalyste qui a décrit cet objet transitionnel qui permet de passer d'un état frustré à un état souhaité. Donc l'état souhaité, c'est d'habiter dehors, et comme on est dans la maison, on va passer à l'extérieur par un objet transitionnel qui s'appelle l'espace transitionnel, en l'occurrence, qui n'est pas préhensible, mais pénétrable. Et on se soit donc, quel que soit le style décoratif, et ça qui importe, il y a des loggias bretonnes, il y a des pergolas bretonnes, le bâtiment entre ces quatre murs est prolongé à l'extérieur par ces espaces transitionnels, c'est l'auvent, le balcon, le belvédère, le window kiosque, etc. L'être humain, quand il y pénètre, est toujours protégé par le bâti, mais a vision totale sur l'extérieur. On n'est plus dans 90-100 degrés de vision à travers une fenêtre, on a 180 degrés de vision quand vous êtes dans une véranda. Voilà, alors les différents éléments, quels que soient les styles, la villa Arbane du prix Nobel Becquerel à Sainte-Marguerite, prix Nobel de physique, je crois.